Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique, Alex Dang. Parce que l'économie est une discipline traversée par d'innombrables fractures, nous vous proposons chaque vendredi un débat entre deux experts, un face-à-face à la croisée de la théorie économique et de la controverse politique. Aujourd'hui, les entreprises françaises payent-elles trop d'impôts ? Le plan de relance du gouvernement a donc été présenté hier. Parmi les mesures phares, la baisse annoncée de 10 milliards d'euros par an des impôts de production, des taxes accusées de peser sur la compétitivité. C'est le reproche régulièrement adressé à la fiscalité française. Elle fragiliserait les entreprises tricolores dans un monde globalisé, engagé dans une course au moins-disant fiscal. Alors faut-il réduire les impôts sur les sociétés en France ou repenser la fiscalité à l'échelle mondiale? C'est la question que nous allons poser à nos deux invités, Nadine Levrato, économiste, directrice de recherche au CNRS, et Philippe Martin, président délégué du Conseil d'analyse économique. À 14h45, Racontez-moi l'écho, votre nouveau rendez-vous, vous emmènera sur les pas d'Harry Potter à l'école du capitalisme.
Pour ne pas entraver, pour doper la production dans nos territoires, nous allons en effet baisser dès le 1er janvier prochain, les impôts de production à hauteur, mesdames et messieurs, de 10 milliards d'euros par an. Car vous le savez parfaitement, ce sont ces impôts qui pèsent sur les facteurs de production, le travail, l'investissement, les locaux, les terrains, indépendamment, cela a été dit, de la profitabilité des entreprises. Nous devons le dire et l'assumer, on ne peut pas vouloir à la fois faire ou refaire de la France une nation industrielle et maintenir une fiscalité objectivement et comparativement punitive pour notre industrie.
Bonjour Nadine Levrato et Philippe Martin.
Bonjour.
Bonjour. Vous avez reconnu le Premier ministre Jean Castex, c'était à l'université d'été du MEDEF la semaine dernière. Alors avant de se demander si les entreprises payent trop d'impôts en France, il faut préciser de quel impôt on parle, car les charges pesant sur les entreprises prennent de multiples formes, Nadine Levrato.
Bien sûr, les impôts et les taxes et les cotisations diverses s'appliquent à différents niveaux. Les assiettes sont très variées. Ce peut être les salaires, la valeur ajoutée, le résultat courant avant impôt de l'entreprise. Il y a également de multiples taux qui peuvent s'appliquer. Donc, au fur et à mesure que l'on descend dans les soldes intermédiaires de gestion, on va avoir des assiettes qui vont servir de référence à des calculs. Il y a également des exonérations et des subventions directes qui vont venir interférer. Donc, on a une multiplicité d'impôts et de taxes et de cotisations qui s'appliquent aux entreprises.
Un paysage très complexe dans lequel on va essayer d'y voir un peu plus clair. Il faut peut-être expliquer que les prélèvements obligatoires appliqués aux entreprises sont composés aux 2/3 des cotisations sociales et à 1/3 d'impôts. Et parmi les impôts, il faut faire une autre différenciation, Philippe Martin, entre les impôts de production qui pèsent sur le chiffre d'affaires des entreprises et l'impôt sur les sociétés qui taxent leurs bénéfices.
Si c'était aussi simple, ce serait bien. C'est en fait même un peu plus compliqué. Mais vous avez raison, il y a quand même une grosse différence entre les impôts qui pèsent sur les profits des entreprises. Et en général, les économistes pensent que quand on taxe les entreprises, c'est bien plutôt de taxer les profits des entreprises. Et puis, d'autre part, les impôts dont on parlait, enfin le Premier ministre en parlait, les impôts de production, c'est pas seulement sur le chiffre d'affaires, c'est aussi sur la valeur ajoutée des entreprises. Mais en effet, c'est des impôts qui ne sont pas liés directement au profit des entreprises, mais au processus de production même des entreprises. Et donc, en effet, une critique qui est souvent faite et que moi je fais sur les impôts de production, c'est que ce sont des impôts qui, en grande partie, ne sont pas liés à la profitabilité des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises en payent, même si elles ne font pas de profit. L'impôt de production par excellence, entre guillemets, hein, c'est la C3S qui est directement sur le chiffre d'affaires. Et c'est pour ça que nous, au Conseil d'analyse économique, on considérait que c'était vraiment ce qu'il y avait de plus distortif et le plus d'impact, qui avait le plus d'impact négatif sur la compétitivité en particulier.
Alors, il faut préciser qu'il y a environ 13 impôts de production, 13 grands impôts de production, mais il y en a deux principaux qui sont concernés par les annonces du gouvernement, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et la contribution sociale de solidarité des sociétés, la C3S dont vous venez...
Justement, il ne va pas y avoir de baisse de C3S, hein, les deux impôts qui vont être concernés par le plan de relance, c'est la CVAE, donc justement la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, et puis la CFE, qui est une contribution sur, en gros, le foncier des entreprises. Mais justement, la C3S n'est pas impactée. Moi, je le regrette, hein, je pense que c'était vraiment l'impôt qu'on aurait pu éliminer pour pas mal de raisons, on pourra y revenir, c'est pas celui qui a été choisi, mais les 10 milliards, c'est sur la valeur ajoutée et la partie foncière des entreprises.
On va revenir sur la C3S, mais d'abord, Nadine Levrato, est-ce que vous considérez que ces impôts de production nuisent à la compétitivité des entreprises ?
Alors, les impôts de production, en général, c'est une grande famille qu'on a réunie sous cette expression parce que on ne sait pas les classer autrement. Donc, c'est dans le projet de loi de finances qu'on a cet ensemble hétérogène. Donc, il y a trois grands blocs. Il y a des impôts qui portent sur la main-d'œuvre, le versement transport, par exemple, qui peut être très très utile aux sociétés puisque ça permet de faciliter le transport des salariés. Donc le rapprochement du capital et du travail. Il y a un bloc qui concerne le bâti, l'équivalent de la taxe foncière que paient les ménages. Et il y a un dernier groupe aux assiettes extrêmement variables. C'est dans ce dernier groupe que se trouvent les cibles du MEDEF et du gouvernement qui représentent des parts inégales puisque la CVAE c'est 15,2 milliards en 2019 et la C3S c'est seulement entre guillemets 3,9 milliards. Donc on a des impôts qui ont des proportions très différentes et qui ont un usage, hein, c'est-à-dire que ces impôts, ils sont utilisés, ils sont collectés en partie par les collectivités locales, enfin ils sont rétrocédés en partie aux collectivités locales pour améliorer l'environnement de production des entreprises et on sait que justement il faut mettre en balance le poids de la fiscalité et ce qu'elle sert à financer.
Donc ce serait un petit peu rapide pour vous, Nadine Levrato, de dire que ces impôts de production et la C3S en particulier, donc cette taxe qui pèse sur le chiffre d'affaires, sont responsables des délocalisations ?
Oui, d'abord parce que elle ne représente finalement pas grand-chose au total du poids global de la fiscalité. Ensuite, un grand nombre d'entreprises sont de fait exonérées puisqu'il y a des seuils en deçà duquel le paiement est entièrement compensé par l'État. Il y a
Une réforme qui est passée au moment de la présidence de François Hollande. Seules les grandes entreprises sont soumises à cette C3S.
Alors oui, ce sont principalement les grandes entreprises qui sont soumises à ces impôts-là. Et puis, il y a des logiques territoriales aussi, avec les quartiers prioritaires de la ville, les zones franches urbaines, toute une série donc de zonages qui permettent d'alléger, voire de supprimer totalement ces impôts. Si bien qu'au bout du compte, les principales entreprises contributrices sont les plus importantes, les plus grands groupes en France. Et pour vous donner un exemple, la CVAE est principalement payée par EDF. Et on peut s'interroger sur l'impact que ça aurait sur la production. Je pense pas que la production d'électricité soit dépendante de ce type de fiscalité.
Pourquoi faut-il, selon vous, au contraire, Philippe Martin, supprimer cette C3S, cette taxe sur le chiffre d'affaires ?
Alors, c'est pas tout à fait vrai que c'est que les grandes entreprises hein, c'est qui la payent, parce que c'est au-dessus de 19 millions d'euros. Donc 19 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est encore une PME.
Hein, donc, c'est tout de même 22 000 entreprises en France,
voilà,
en effet.
Donc beaucoup d'entreprises. La C3S, c'est un impôt que moi je considère vraiment assez imbécile, hein, par rapport, par exemple, à l'impôt sur les sociétés, sur les profits. Moi, je préfère qu'on taxe les profits plutôt que le chiffre d'affaires, parce que ça signifie qu'à chaque fois que dans le stade de production vous produisez, vous faites du chiffre d'affaires, vous taxez. Et donc en fait, c'est une taxe qui taxe la taxe, qui taxe la taxe à chaque stade de production. Et donc vraiment, ça a un effet amplifié. C'est vrai que c'est pas énorme, hein, 4 milliards d'euros. On peut se dire c'est pas gigantesque, mais enfin c'est quand même 4 milliards. Mais en fait, ça a un effet multiplié, hein, justement par cet effet des différences de production. Et nous, dans le travail empirique très fin qu'on a fait sur toutes les entreprises exportatrices, donc certaines ont bénéficié de baisse de cette C3S. Ce qu'on voit, c'est que celles qui ont bénéficié d'une suppression de la C3S ont augmenté leurs exportations de 1%. Alors vous dites 1%, c'est pas énorme, mais pour une taxe qui ne rapporte que 3 milliards ou 4 milliards, c'est en fait très important. Et c'est aussi une incitation à délocaliser la production, parce que ceux qui sont à l'extérieur ne payent pas cette 3S. Donc c'est une petite taxe, mais qui a un effet, à mon avis, assez majeur. Et donc c'est pour ça que je regrette d'ailleurs qu'elle n'ait pas été la priorité du gouvernement, même si je comprends qu'on ait voulu faire aussi la CVAE, une partie de CVAE et de CFE, mais c'était vraiment la taxe qui n'existe d'ailleurs qu'en France. Hein. Il n'y a qu'en France qu'on taxe le chiffre d'affaires des entreprises.
Alors ça, c'est un point important. Effectivement, est-ce que ça ne fragilise pas les entreprises françaises, étant donné que cette C3S n'existe pas ailleurs en Europe, Nadine Levrateau ?
Les comparaisons internationales de fiscalité sont extrêmement difficiles à conduire, parce qu'il y a des impôts qui existent ailleurs et qui peuvent ne pas exister en France, ou des imputations différentes dans les comptes des entreprises de certaines taxes. Donc il y a eu une multitude d'exercices qui ont été faits, et même à l'échelle européenne, on a du mal à mesurer exactement, dans la mesure où certains équipements publics ou des biens collectifs ne sont pas financés non plus de la même manière suivant les États. Alors moi, j'entends bien ce que vous dites, hein, sur le fait que taxer le chiffre d'affaires, c'est ce qui est fait pour les micro-entreprises d'ailleurs. Le régime de l'auto-entrepreneur, ça ne taxe que le chiffre d'affaires et ce n'est pas très futé. Mais là, c'est une infime partie qui touche la fiscalité du chiffre d'affaires. Et le problème de la taxation des profits, c'est qu'elle est peut-être inégale aussi, dans le sens où les grandes entreprises notamment parviennent, par le jeu de l'érosion de la base fiscale, soit grâce aux paiements de transferts, donc les prix de transfert pour les groupes qui ont des filiales à l'étranger, ou le jeu des abattements, des amortissements également peut distordre les profits, au point que la CGPME dénonce souvent le fait que le taux de taxation effective des PME et des petites entreprises est supérieur à celui des grandes, parce que le résultat courant avant impôt, finalement, en arrivant tout en bas des soldes intermédiaires de gestion, est facilement manipulable. La valeur ajoutée, elle l'est beaucoup moins.
Est-ce que ce ne sont pas les entreprises internationales qu'il faudrait réussir à toucher, alors que cet impôt-ci touche des grandes entreprises nationales, Philippe Martin ?
Ouais, je crois qu'on a un point d'accord. C'est-à-dire que je crois qu'un des problèmes de la taxation des entreprises en France, c'est en effet, c'est assez inégal. Et de fait, c'est pour ça que nous, au Conseil d'analyse économique, qui, je rappelle, un conseil indépendant, hein, auprès du Premier ministre, mais on est indépendant, ce sont des universitaires indépendants qui écrivent ces notes. Nous, ce qu'on disait, c'est qu'il faut coupler cette baisse des impôts de production d'une réforme, et là c'est quelque chose à long terme qui est difficile, d'une réforme de la taxation des multinationales. On estimait qu'en France, en gros, il y a à peu près 5 milliards en gros s'envolent, hein, du fait de l'optimisation fiscale. Donc vous voyez, 5 milliards qui ne sont pas payés par les multinationales du fait de l'érosion fiscale, et de l'autre côté les 4 milliards de la C3S. C'est pas facile, hein, de faire cette réforme au niveau de l'OCDE. Il y a des négociations actuellement. Les États-Unis sont pas très coopératifs, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est pas seulement l'internet, hein. Les grosses multinationales dans la chimie, dans le luxe, et certaines sont françaises, font aussi de l'optimisation fiscale. Et donc je crois qu'en effet il y a besoin de clarifier et de vraiment essayer de taxer ce qui, à mon avis, doit être taxé au niveau des entreprises, c'est-à-dire le profit. Mais je suis d'accord que c'est plus difficile que de taxer le chiffre d'affaires. Mais c'est pour ça qu'il faut faire les deux en même temps.
Encore un mot sur les impôts de production. Est-ce que la réduction de la CVAE dont on a parlé, et donc cette réduction aussi de l'impôt foncier, est-ce que cela est susceptible d'avoir vraiment un impact sur la production en France, selon vous, Philippe Martin ?
C'est un coût pour les entreprises et c'est un coût relatif. Et donc, si on pense que les coûts des entreprises se retrouvent dans leur prix et dans leur compétitivité, oui, ça peut avoir un effet sur la relocalisation industrielle, en particulier parce que le choix du gouvernement fait que, en particulier sur la taxation du foncier sur l'industrie, ça va avoir un impact en particulier positif sur l'industrie. De combien ? Moi, je suis incapable de le dire. Sur la C3S, on était capable de le dire. Je ne veux pas revenir 100 fois sur la C3S. Mais donc, oui, ça aura un impact. Dire que c'est le seul déterminant de la localisation de la production, bien entendu, non. Il y a plein de déterminants qui expliquent pourquoi on s'est désindustrialisé, pourquoi on a délocalisé massivement. Et évidemment, les impôts pesant sur les entreprises ne sont que un des déterminants.
L'autre question, c'est la compensation pour les collectivités locales qui percevaient ces impôts de production, Nadine Levrato. Parce que ce qu'il faut peut-être souligner, c'est que la France taxe beaucoup, mais qu'elle redistribue aussi beaucoup et qu'il y a un certain nombre d'infrastructures qui servent aux entreprises et qui sont financées par les collectivités locales.
Il faut rappeler que la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises est le produit de la réforme de la taxe professionnelle qui avait été réalisée par Nicolas Sarkozy, dans la mesure où cette taxe sur l'investissement était déjà soupçonnée défavoriser la production des entreprises. Donc on a introduit la CVAE, les collectivités locales ont été assez mécontentes, d'une part parce que la compensation n'était pas au rendez-vous complètement, d'autre part parce qu'il y avait une très grande volatilité des impôts qui étaient collectés, puisque la valeur ajoutée c'est quelque chose qui varie d'une année sur l'autre, et donc pour programmer des investissements pluriannuels, cela devient vraiment vraiment compliqué. Donc l'Assemblée des communautés de France a demandé des analyses, des recherches pour essayer de mesurer la valeur ajoutée au niveau des établissements, puisque les plus gros contributeurs sont les plus grandes entreprises qui sont multi-établissements et multi-localisées. Donc c'est quelque chose d'assez touffu. Mais revenir sur handicap ou pas handicap, il y a quand même un point à mentionner, c'est que tous les ans, la France, et on peut s'en réjouir, attire un très grand nombre d'investissements directs étrangers qui ne semblent pas gênés par ces impôts dits sur la production. Et donc, l'effet n'est pas forcément décourageant sur l'implantation d'établissements étrangers en France.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
En ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, nous nous plaignons de la complexité très grande actuellement du système fiscal. Cette complexité très grande nous oblige à réunir une documentation, à l'étudier et à la lire, alors que nous n'avons pas le temps matériel de le faire, et que chaque heure perdue pour cela, c'est une heure perdue pour la production, à une époque où la production réclame l'effort total de tout un chacun. Nous sommes obligés de nous adresser à des conseillers fiscaux. Nous devons leur faire confiance, et en réalité, c'est nous qui portons la responsabilité des déclarations qu'ils font pour nous, ou des études qu'ils sont chargés de faire pour nous. D'autre part, nous nous plaignons également que le taux de l'impôt actuellement est véritablement trop élevé et trop écrasant. Une fois le prélèvement fait de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, nous devons supporter la charge de l'impôt sur le revenu. Et à ce moment-là, il ne nous reste, pour ainsi dire, absolument rien. Or, il est de toute évidence que si une entreprise personnelle qui a du mal à recouvrir à l'emprunt et qui doit vivre par ses propres moyens ne trouve pas la possibilité de pouvoir renouveler son stock, de pouvoir améliorer ses méthodes, c'est-à-dire en un mot de progresser, elle est condamnée petit à petit à la ruine, et cette ruine entraînera automatiquement la ruine générale du pays.
La ruine générale du pays, le cri d'alarme de Paul Allot, membre du bureau de la Confédération Générale des Entreprises, dans une archive INA de 1946. Les entreprises françaises payent-elles trop d'impôts ? C'est le sujet de notre débat du vendredi. Nous sommes toujours en compagnie des économistes Nadine Levrato et Philippe Martin. L'un des grands enjeux pour les entreprises, c'est le coût du travail, qui est souvent jugé trop important en France. Et c'est pour alléger ce coût que des crédits d'impôts ont été mis en place, Nadine Levrato.
Des crédits d'impôts, des exonérations, donc toute une série de mesures d'allègement, va-t-on dire, au sens large, qui constituent en fait de la dépense fiscale, puisque ce sont autant de recettes en moins pour l'État et les organismes sociaux. Alors elles sont de nature diverse, hein. L'essentiel ce sont les exonérations de cotisations sociales, donc qui sont encaissées par les organismes de sécurité sociale et qui financent la protection sociale, 40 milliards l'an dernier. Derrière vient le crédit impôt recherche, mis en place pour favoriser l'innovation et la recherche et développement dans les entreprises. Alors la France a le système le plus généreux en matière de crédit d'impôt recherche, environ 6,5-7 milliards par an. Donc l'ensemble de ces dépenses fiscales qui sont très difficiles à tracer, à traquer, et il faut une lecture attentive des annexes au projet de loi de finances, puisque un petit peu à l'instar des manifestations, hein, selon les sources, on n'a pas du tout le même montant. Néanmoins, même Gérald Darmanin considérait que ces exonérations étaient inéquitablement réparties et qu'il fallait les toiletter dans un objectif de justice fiscale. Donc, à supposer que l'on prélève beaucoup, on distribue également vraiment beaucoup.
Ce qui est très difficile à évaluer, c'est effectivement les effets de ces crédits d'impôt sur l'emploi. Qu'est-ce qu'on peut dire du CICE qui avait été mis en place en décembre 2012 par le gouvernement Hérault et qui a été transformé en 2019 en baisse de cotisations sociales, Philippe Martin?
Oui, un point d'accord. D'abord, je suis d'accord, en France, on taxe beaucoup et on redistribue beaucoup. Donc, ça fait énormément de complexité. Hein, on l'entendait dans l'archive. C'est vrai que les entreprises ont des impôts en France qui sont très nombreux. Hein, donc, Et la complexité, c'est une taxe en elle-même. Donc je pense qu'on pourrait simplifier beaucoup et peut-être en effet moins taxer et moins redistribuer à la fin, ce serait plus simple. Alors sur les baisses de charges, en effet, comme en effet les charges sont élevées, on a fait beaucoup de baisses de charges. Et un des plus connus, évidemment, c'est le CICE, qui était pas une baisse de charges directe, qui était un crédit d'impôt. C'est-à-dire que les entreprises recevaient l'année suivante le montant de la baisse de charges en crédit d'impôt. Ce qui faisait que d'ailleurs, c'était pas du tout clair pour les entreprises. Nous, l'analyse qu'on faisait sur ces baisses de charges, c'est que sur les bas salaires, c'est-à-dire à peu près jusqu'à 1,6 SMIC, elles ont eu un impact positif sur l'emploi, en particulier des salariés donc peu qualifiés, pour lesquels le coût du travail peut être en effet un handicap pour l'embauche. En revanche, tout ce qui est au-dessus de 1,6 SMIC, et il y en a eu beaucoup dans le CICE, nous on trouvait aucun impact ni sur l'emploi, ni sur la compétitivité des entreprises, et c'est pour ça qu'on disait, au-delà de 1,6 SMIC, je pense qu'on peut réduire fortement ces baisses de charges.
Nadine Levrato, sur l'impact de ce CICE sur l'emploi, mais aussi sur les exportations?
L'évaluation de l'impact des exonérations de cotisations sociales fait partie des sujets les plus largement étudiés en analyse empirique de la firme. C'est-à-dire que vous avez une multitude d'évaluations. L'innovation méthodologique a été faite avec l'introduction de techniques dites soit randomisées, soit de différence pour mesurer justement s'il y avait un impact. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a du mal déjà à évaluer l'impact des exonérations en faisant du contrefactuel, parce que toutes les entreprises sont exonérées. Pas dans les mêmes proportions, mais toutes sont exonérées. Il est difficile de comparer des entreprises indemnes d'exonération à des entreprises dites traitées. Donc ça, c'est le premier point.
Ensuite, ce qui est difficile, c'est de savoir où va cet argent. Est-ce qu'il va du côté des actionnaires ou est-ce qu'il va dans des investissements?
Alors, c'est un autre sujet qui n'est pas tranché du tout non plus. Les exonérations, vous n'avez pas à les demander pour les obtenir, contrairement aux aides d'État, aux aides directes, où il faut remplir des dossiers plus ou moins compliqués et faire la demande. Là, c'est automatiquement calculé par les agences de cotisation de la sécurité sociale. les agences comptables, pardon, de la sécurité sociale, qui vont appliquer d'emblée, sans que l'entreprise ait à requérir quoi que ce soit, ces exonérations de cotisations, qui sont très importantes, qui sont nées en 93 avec Juppé, et qui n'ont cessé d'augmenter, aussi bien du point de vue de la base d'exonération que du taux d'exonération. En fait, l'inflexion, étonnamment, hein, si on peut dire, date de là encore de Nicolas Sarkozy, qui voyant exploser le coût de ces exonérations, a capé, a dit stop à l'extension de ces exonérations. Et donc, on a vu s'infléchir le volume global, le montant global d'exonérations accordées. Alors, suivant les méthodes que l'on utilise, suivant les périodes, suivant les secteurs, suivant les populations d'entreprises évaluées, les résultats sont différents. Suivant que l'on fasse des évaluations ex ante ou ex poste, il y a deux écoles, les pros et les anti, c'est-à-dire que les évaluations qui ont été faites et qui ont été demandées par France Stratégie montrent que il est très difficile quand même de trouver un résultat et que dans tous les cas, le coût de l'emploi résultant des exonérations est extrêmement élevé et par rapport aux emplois aidés qui ont été décriés justement parce qu'ils étaient trop onéreux, c'est 10 fois moins cher.
Est-ce que l'une des leçons que l'on peut tirer de ces exonérations, c'est qu'il faudrait réduire les coûts salariés, mais peut-être seulement dans les services qui sont abrités de la concurrence internationale, Philippe Martin ?
Non, c'est pas comme ça que je réfléchirais. Je pense que il y a un problème. Enfin, on sait qu'il y a un problème de chômage, en particulier des personnes non qualifiées en France. Hein. La très grosse majorité des chômeurs en France, ce sont des personnes qui n'ont pas qui ont le bac ou en dessous du bac. Hein. C'est 80% des chômeurs en gros. Donc, c'est vrai que le raisonnement d'un certain nombre d'économistes, c'est de dire que potentiellement pour ces personnes, il y a un frein à l'embauche qui vient du coût du travail. Et c'est pour ça qu'un certain nombre d'économistes, hein, pas tous évidemment, mais un certain nombre d'économistes sont favorables à une baisse du coût du travail via une baisse des charges. C'est vrai que ces baisses de charges ont augmenté au cours du temps, mais elles ont suivi le fait que les taux de cotisation aussi augmentaient. C'est-à-dire que, encore une fois, typiquement en France, on a augmenté les taux de cotisation et du coup, après, on a fait ces baisses de charges pour compenser ces augmentations de taux de cotisation, en particulier hein, sur les bas salaires.
Ce qui ajoute à la complexité globale.
Et absolument, vous avez tout à fait raison. Mais ceci dit, maintenant, on est au bout du mécanisme parce qu'aujourd'hui, au niveau du SMIC, de toute façon, les charges sont à zéro puisque le CICE a été transformé en baisse de charges simple, ce que moi je pense être une bonne chose parce que ça simplifie les choses. On arrête de faire un crédit d'impôt qui est remboursé l'année d'après, enfin qui est un truc quand même assez complexe. Donc maintenant, de toute façon, entre guillemets, on ne pourra plus faire de baisse de charges au niveau du SMIC. Sauf à faire des choses encore plus compliquées. Hein. Donc la question se pose, et le patronat a très souvent demandé des baisses de charges sur les salaires relativement élevés, en particulier dans l'industrie, parce que ils disent, le raisonnement, c'est dans l'industrie, nous, on paye pas au SMIC. Et ce qui est vrai en partie, c'est que dans l'industrie, la grosse partie des salaires, ce sont des salaires plutôt au-delà de 1,5 SMIC, et pour lesquels les baisses de charges sont relativement plus faibles, sauf pendant la période CICE. Mais ce qui est vrai, sauf que quand on fait des baisses de charges au-delà de 1,5 SMIC, prenons un manager, un ingénieur, etc. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de chômage pour ces personnes. Mmh. Et donc, de toute façon, vous n'allez pas aider l'emploi de ces personnes. Et qu'est-ce qui va se passer? Si vous savez que votre employeur a eu une baisse de charges sur votre salaire de 10% et que vous êtes un manager et que vous pouvez aller dans une autre entreprise, vous allez demander une augmentation de salaire. Et donc, ce qui s'est passé sur les baisses de charges sur les salaires relativement élevés, c'est que ça n'a pas aidé à la compétitivité parce que d'un côté, on baissait les charges, mais les salaires ont plutôt augmenté, mais les salaires n'ont pas les bas salaires, les salaires plutôt des managers, des ingénieurs, des commerciaux, etc.
On comprend que le CICE n'a pas profité qu'aux actionnaires, mais aussi à certains managers. Absolument. Nadine Lebrato.
Alors, un point de détail peut-être, mais ça me gêne toujours qu'on parle de charges sociale. Je préfère, et c'est le terme d'ailleurs qui devrait être adopté, ce sont des cotisations, puisque le travail est un actif et ces cotisations servent à financer de la qualité du travail, notamment en luttant contre les maladies avec la sécurité sociale et du salaire différé pour les retraites. Il y a quand même des cas, hein, au-delà de ce point sémantique, il y a quand même des cas qui ont fait parler d'eux. Je pense à Sanofi en particulier, qui a bénéficié ou qui a reçu des montants importants d'exonération, qui a distribué d'importants dividendes et qui a également en parallèle licencié. Ça fait un petit peu désordre et ces cas sont à la fois nuisibles à ce type de politique et à l'image qu'elles en ont. Est-ce que, en plus, mêler politique de l'emploi et politique de compétitivité, ce n'est pas forcément la meilleure chose que l'on puisse faire, hein, puisqu'on a la vieille règle de Tinbergen, un objectif, un outil de politique publique. Donc ce mix de recherche de compétitivité parallèlement à une résolution des problèmes d'accès au marché du travail, ça ne profite pas non plus à la clarté des évaluations.
Non, mais je suis d'accord. De ce point de vue, je pense que les baisses de charges, l'objectif, c'est un objectif d'emploi. Je ne crois pas que les baisses de charges puissent avoir un impact en termes de compétitivité pour les raisons que j'ai expliquées. Et donc, en effet, je crois que c'est une question sur l'emploi et en particulier des personnes peu qualifié, sur lequel, encore une fois, on a un vrai problème de chômage en France.
Alors, il y a le CICE, il y a aussi le crédit d'impôt.
Enfin, il y avait le CICE. Le CICE, a disparu. Hein. Il a été remplacé par
la baisse des cotisations sociales. Ouais. Absolument, à partir de 2019. Mais il y a aussi le crédit d'impôt recherche. Est-ce qu'on peut dire qu'il a permis, d'un côté, de ramener les investissements de l'étranger, Philippe Martin, et en même temps, il a déçu parce qu'il n'a peut-être pas débouché sur une hausse des dépenses de R&D, comme on pouvait l'espérer?
Alors, les études que moi je connais, les études d'évaluation, c'est que ça a un impact positif sur l'emploi en termes de chercheurs, ça a un impact positif sur les brevets, mais on ne voit pas d'impact sur la productivité ou sur la compétitivité. Donc c'est difficile. Très franchement, je pense que c'est typiquement un sujet, le crédit impôt recherche, où on a vraiment besoin d'une évaluation fine. C'est pas facile parce qu'encore une fois, on a toutes les entreprises bénéficient du crédit impôt recherche. C'est une manière, soyons francs, c'est une manière de faire baisser l'impôt sur les sociétés en France qui est considéré comme trop élevé. Moi, je trouve que c'est encore une fois, c'est une manière, d'un côté on taxe beaucoup et puis ensuite on redonne. Et je trouve que c'est pas la bonne manière de taxer les entreprises. Je crois qu'il faut faire simple.
Alors est-ce que la bonne manière, ce serait justement de diminuer l'impôt sur les sociétés en France, qu'on constate, en tout cas à l'heure actuelle, Nadine Levrato, c'est que la France connaît une baisse qui est une tendance mondiale?
Oui, l'impôt n'a pas bonne presse. C'est un phénomène qui s'inscrit dans la durée et donc depuis l'arrivée du New Public Management, il s'agit d'alléger les charges, les dépenses de l'État et donc l'impôt général, hein, pour les ménages et les entreprises, si bien qu'une partie du déficit, d'ailleurs, est causée par la réduction des recettes inhérentes, enfin consécutives, à la diminution des impôts.
Mais plutôt que de passer par d'autres stratégies, comme le disait Philippe Martin, que ce soit le crédit d'impôt recherche ou d'autres baisses de cotisations, est-ce que ce n'est pas plus simple de baisser l'impôt sur les sociétés comme ce qui est prévu, puisqu'il y a cet article 41 de la loi finances pour 2018 qui vise à faire passer l'impôt sur les sociétés en France de 33 à 25% à l'horizon 2022?
Alors là encore, il faut comparer le taux affiché et le taux effectif. Dans le sens où, là encore, les analyses montrent que, suivant la taille des entreprises, le taux effectif peut être très différent, notamment grâce aux exonérations du crédit impôt recherche, qui ne va pas concerner toutes les entreprises de manière équivalente. Ce sont les plus grandes d'entre elles qui vont bénéficier de l'essentiel de ce crédit impôt recherche. Alors, on va dire c'est normal, puisque ce sont celles qui font le plus de recherches, mais avec un impact de ce type de dispositif discutable, puisque on voit plus les dépenses de R&D augmenter que les le résultat en termes de brevets et même d'emploi. Je n'ai pas les mêmes résultats que Philippe Martin en tête. Donc sur la taxation globale, c'est très difficile de dire ce doit être 33 ou 15% pour tous, même si sur le papier c'est vrai, parce que dans les faits, l'appropriation, l'utilisation, l'adossement fiscal des entreprises n'est pas du tout le même. Elles n'ont pas la même structure de production, les facteurs capital et travail ne sont pas dans les mêmes proportions. La capacité à orienter la base, donc le résultat courant avant impôt, n'est pas du tout la même d'une entreprise à l'autre. Donc il faut tenir compte de tous ces éléments.
On voit bien qu'on est face à un casse-tête. On veut à la fois simplifier tout en gardant une politique qui soit égalitaire, Philippe Martin, vis-à-vis des différentes entreprises qui n'ont pas les mêmes, par exemple, stratégies d'optimisation fiscale selon qu'on est une très grande entreprise ou une PME.
Non, mais on revient tout au sujet de la taxation des multinationales, parce qu'on fait face à un phénomène que moi je regrette, qui est en effet la concurrence fiscale entre les pays qui pousse chacun à baisser l'impôt sur les sociétés pour pas être la victime de délocalisation de ces entreprises vers ceux qui ont baissé les impôts. Et on voit bien que c'est une stratégie perdante pour tous ces pays, pour tous les pays et les pays de l'OCDE en particulier. Et c'est pour ça que je pense vraiment extrêmement important qu'on arrive à un accord au niveau de l'OCDE. Les multinationales seront évidemment les perdantes d'un tel accord. Bon, encore que ça leur donnera un peu plus de stabilité peut-être, mais enfin, très clairement, elles devront payer plus d'impôts. Mais et l'intérêt d'avoir un accord au niveau de l'OCDE, justement pour éviter l'optimisation fiscale, c'est que ça permet, peut-être pas complètement, mais au moins, d'arrêter la concurrence fiscale, donc cette baisse continue qui vient du fait que si vous baissez votre impôt sur les sociétés, ben moi j'ai aussi intérêt à le faire et en vice versa, etc. Et
on voit que par exemple Donald Trump avait baissé l'impôt sur les sociétés de 35 à 21% il y a 2 ans et aujourd'hui nous on a cet objectif de 25% à l'horizon 2022.
Voilà. Donc moi je très franchement je 25%, je trouve que c'est trop faible. Mais en même temps, je comprends bien que dans une situation où tous les autres pays baissent leur impôt sur leur société, et les autres pays l'ont fait, eh ben on va être obligé de le faire. Mais c'est pas optimal. Je préférerais qu'on ait des accords internationaux pour taxer les entreprises et leurs profits à des niveaux relativement, enfin, plus élevés. Surtout dans une situation où vous avez de grosses multinationales qui font des surprofits du fait de leur situation en termes de monopole. Et pour les économistes, c'est quand même, s'il y a des monopoles et des monopoles de profit, et là on pense à tout, là les entreprises évidemment du numérique sont en première ligne, mais pas seulement, ben oui, il faut taxer ces profits de monopole.
Nadine Lovrato.
Bien entendu, l'idéal, ce serait d'avoir des accords au niveau de l'OCDE. Quand on voit les difficultés que l'on rencontre au niveau de l'Europe, qui n'a pas compétence à établir, à légiférer en termes de fiscalité, on se rend compte de la hauteur du problème, du mur à franchir. Et lorsque l'on voit également en Europe, au sein de l'Union européenne, des sortes de paradis fiscaux, oui, voilà. Bon, allons-y carrément. Y compris avec des réglementations au-delà du cas du Luxembourg, des îles anglo-normandes, du dumping fiscal en Irlande. Mais on a même la City qui est depuis le Moyen-Âge une enclave qu'on peut désigner comme un paradis fiscal. Il faudrait peut-être déjà que l'on s'interroge au niveau de l'Union européenne. Même chose pour les cotisations et la protection sociale, parce que s'il y a transfert de main-d'œuvre, s'il y a prêt de main-d'œuvre, s'il y a ces mouvements un peu erratiques de personnel des pays de l'Est de l'Europe vers les pays de l'Ouest, c'est aussi parce que il y a des effets d'aubaine qui peuvent exister par le truchement du jeu des cotisations.
Le projet de l'OCDE est intéressant. notamment ce qu'il propose, c'est une réforme fiscale qui consiste à instaurer un taux d'imposition minimum des sociétés de 12,5% à l'échelle internationale. Et puis il y a un second volet de cette réforme fiscale qui consiste à redistribuer une partie des bénéfices entre les pays où une activité est enregistrée, même si l'entreprise n'a pas de présence physique dans ce pays. Alors, ce sont des projets qui vous paraissent intéressants, Philippe Martin, mais peut-être la difficulté aujourd'hui, c'est de trouver un consensus au niveau mondial.
Oui, c'est vrai, c'est difficile. Je pense que le plus efficace, c'est le taux minimum. Alors après, on peut avoir des discussions sur le fait que 12,5%, c'est pas très élevé, mais enfin, c'est mieux que zéro. Aujourd'hui, c'est zéro. Donc, c'est mieux que zéro. Moi, je suis relativement optimiste. Je pense que on va aller vers un accord. Ce sera plus facile si c'est pas Monsieur Trump qui est réélu à la présidence des États-Unis. Ce sera long. Ça va être difficile. Il va y avoir beaucoup de lobbying. Le deuxième volet est intéressant aussi. En gros, de se dire, on va pas taxer en fonction seulement des profits qui sont faits dans un pays, parce qu'on sait que ces profits, c'est très facile à les transférer de France par exemple vers l'Irlande qui a un taux de taxation plus faible, mais on va taxer en fonction du chiffre d'affaires qui est fait dans ce pays. Faisons attention quand même, le chiffre d'affaires lui-même, ça peut être aussi optimisé, donc il faut faire attention. Et donc c'est pour ça que moi je pense que le plus efficace, c'est de mettre un taux minimum. Après on peut avoir des discussions sur 12,5, mais commençons par ça, ce sera déjà pas si mal.
Et en tout cas, ce qu'on constate, c'est que la réforme fiscale de l'OCDE, si jamais elle était mise en place, serait bénéfique pour la France. Ça, c'est le résultat d'une étude qui avait été menée par le Conseil d'analyse économique.
Oui, on avait fait une étude donc de Clémence Fous, Mathieu Parenti et Farid Toubal sur la taxation des multinationales, et où en effet on montrait avec pas mal de simulations que la France gagnerait en effet en termes de taxation, enfin de revenus fiscaux, à l'imposition d'un taux minimum. On avait testé plusieurs taux, mais elle gagnerait. Et comme la plupart des pays de l'OCDE, les perdants évidemment, ce sont les multinationales qui à ce moment-là paieraient plus, puisqu'elles payent moins que 12,5 dans beaucoup de situations.
Et puis les perdants, ce seraient aussi des pays comme l'Irlande justement.
Alors certes, oui, absolument, sauf que, enfin, il faut faire attention parce que du coup, elle n'aurait pas intérêt à avoir un taux en dessous de 12,5, donc elle perdrait de la base fiscale, mais elle le taxerait à un taux plus élevé.
Quelles seraient les conditions qui devraient être réunies, Nadine Levrato, pour qu'une telle réforme soit instaurée à l'échelle mondiale, alors même que c'est déjà difficile, comme vous le disiez, à l'échelle européenne?
Alors, d'abord, il faut une volonté des différents États et la présence, y compris au sein de l'OCDE, de certains gouvernements qui ne sont pas du tout sur cette longueur d'onde peut rendre difficile l'aboutissement de ce type d'accord. Et puis il y a une difficulté qui tient à la financiarisation de l'économie, on va dire, et au rôle que jouent les banques dans l'érosion de cette base fiscale, avec des outils extrêmement sophistiqués, des fiducies, l'utilisation de pays non membres de l'OCDE comme base d'optimisation. On connaît tous les îles Caïmans ou ces micro-États qui existent en tant que paradis fiscaux, justement, ou le Delaware aux États-Unis, qui est vraiment l'État qui permet d'avoir un paradis fiscal interne aussi aux États-Unis. Donc, il y a toute une série d'éléments qui font que ce sera très bien. Tout le monde, on ne peut être que d'accord avec la convergence vers un accord international, mais en étant a priori bien conscient des limites qui sont renforcées par cette sophistication des circuits de financement.
Et c'est une réforme, celle qui est proposée par l'OCDE, qui permettrait aussi de lutter donc à la fois contre l'optimisation fiscale, mais aussi contre l'évasion fiscale grâce au partage d'informations, Philippe Martin.
Alors ça, c'est sur pas tellement sur les entreprises, c'est plus sur les ménages, sur les particuliers, parce que il y a eu tout un volet sur la question de la fraude. Là, c'est plutôt de la fraude fiscale plutôt que de l'optimisation fiscale du côté des individus, qui a été mise en place, qui continue à être mise en place et qui d'ailleurs commence à donner des résultats. Beaucoup étaient pessimistes c'est pas parfait, rien n'est parfait, mais c'est le processus OCDE sur l'évasion fiscale des individus, pas des entreprises, qui a déjà, sur lequel il y a déjà un accord, commence à donner des résultats. Donc, vous voyez, on peut être, je pense, relativement optimiste, mais la condition sine qua non, c'est que les États-Unis soit dans le processus et accepte de le faire.
Et alors, d'un mot, les entreprises françaises payent-elles trop d'impôts, Nadine Levrato?
C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Il n'y a pas de niveau optimal généralisé de taxation des entreprises. Certaines n'en paient pas assez. Les plus petites en paient peut-être trop, et notamment les micro-entrepreneurs qui ne sont taxés que sur le chiffre d'affaires et pour lesquels il y a vraiment une entrave à la croissance de ce fait-là.
Philippe Martin.
Je pense que sur certains impôts, on paye trop, mais en effet, la question, c'est aussi qu'on taxe trop et on redonne trop. Donc, il y a un problème de la mauvaise taxation et de la complexité de l'impôt pour les sociétés.
Merci beaucoup à tous les deux, à Nadine Levrato, Philippe Martin, d'avoir partagé, échangé votre point de vue aujourd'hui sur cette question de l'impôt des entreprises. Nadine Levrato, chargée d'enseignement à Paris-Nanterre, Philippe Martin, professeur à Sciences Po. Et pour ceux qui aimeraient aller plus loin, il est possible de consulter les notes que vous avez corédigées, Philippe Martin, sur le site du Conseil d'analyse économique, les impôts sur ou contre la production, par exemple, avec Alain Tranois, pardon, les liens sont disponibles sur le site de France Culture à la page de l'émission. Un grand merci à tous les deux. Tout de suite, c'est l'heure de votre nouveau rendez-vous. Racontez-moi l'écho.
France Culture, entendez-vous l'écho. Tiffaine de Roquigny.
Chaque vendredi, nous empruntons les sentiers de la fiction pour parler d'économie autrement. Après avoir sillonné les terres brûlées du sud des États-Unis en compagnie de William Faulkner, nous pénétrons aujourd'hui dans un monde peuplé de sorciers et de hiboux. Bienvenue dans l'univers magique d'Harry Potter.
Hagrid, qu'est-ce que c'est que ces créatures ?
Des gobelins, Harry. C'est très intelligent, le gobelin, mais c'est pas la plus gentille des créatures. Reste près de moi. Monsieur Harry Potter voudrait retirer un peu d'argent. Ah. Est-ce que Monsieur Harry Potter a sa clé? Oh, un petit instant, je l'ai quelque part. Ah, voilà la petite coquine. Très bien.
Coffre 687.
Tu ne croyais tout de même pas que tes parents ne t'avaient rien laissé.
Bonjour, Jean-Claude Milner.
Bonjour.
Vous êtes linguiste et philosophe et vous avez écrit cet ouvrage « Harry Potter à l'école des sciences morales et politiques » paru aux presses universitaires de France il y a quelques années. D'abord, pourquoi vous êtes intéressé à l'économie selon Harry Potter ?
D'abord parce que ça me paraissait lié au caractère très profondément britannique et même plus spécifiquement anglais que l'auteur J.K. Rowling avait souhaité donner à son livre, puisqu'elle souhaitait que les acteurs des films soient strictement britanniques. Elle ne voulait pas de, sauf une ou deux exceptions, elle ne voulait pas d'États-Uniens. Et les premières images montrent une banlieue très typiquement bourgeoise du Grand Londres. L'école de Poudlard est très évidemment modelée sur les public schools de type Eton, qui est une spécificité anglaise. Et donc, je me suis souvenu tout simplement du fait que Londres, l'Angleterre, avait été la terre de naissance du capitalisme moderne. Marx y a écrit Le Capital en ayant sous les yeux le développement de la city et de l'industrie. Et je me suis posé la question de savoir si ça apparaissait dans l'œuvre de J.K. Rowling. Et très vite, il m'est apparu que c'était en vérité une question récurrente au fil de l'œuvre, en sorte que, d'un certain point de vue, le héros du livre, Harry Potter, découvre peu à peu la réalité du monde de la sorcellerie et par voie de conséquence aussi la réalité du monde des Moldus. Et parmi les éléments de sa découverte, il y a cette découverte-là.
Alors prenons quelques exemples et commençons par prendre la direction du Cat Privet Drive.
Monsieur et Madame Dursley, qui habitaient au Cat Privet Drive, avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux. Merci pour eux. Jamais quiconque n'aurait imaginé qu'ils puissent se trouver impliqués dans quoi que ce soit d'étrange ou de mystérieux. Ils n'avaient pas de temps à perdre avec des sornettes. Monsieur Dursley dirigeait la Groening's, une entreprise qui fabriquait des perceuses. C'était un homme grand et massif qui n'avait pratiquement pas de cou mais possédait en revanche une moustache de belle taille. Madame Dursley, quant à elle, était mince et blonde et disposait d'un cou deux fois plus long que la moyenne, ce qui lui était fort utile pour espionner ses voisins en regardant par-dessus les clôtures des jardins. Les Dursley avaient un petit garçon prénommé Dudley et c'était à leurs yeux le plus bel enfant du monde. Les Dursley avaient tout ce qu'ils voulaient. La seule chose indésirable qu'ils possédaient, c'était un secret dont ils craignaient plus que tout qu'on le découvre un jour. Si jamais quiconque venait à entendre parler des Potter, ils étaient convaincus qu'ils ne s'en remettraient pas.
On l'entend dans cette lecture par Bernard Giraudot des toutes premières lignes de la saga. J.K. Rowling n'épargne pas la famille Dursley. L'oncle Vernon et la tante Pétunia sont dépeints comme matérialistes, conventionnels, obsédés par les apparences et par les normes. Il faut y voir une critique de la société anglaise de la fin du XXe siècle, Jean-Claude Milner.
Oui, d'une certaine classe. Et je dirais la classe qui est... arrivée visiblement au pouvoir avec Margaret Thatcher, c'est-à-dire un certain type de classe moyenne, qui est une classe moyenne liée à la production industrielle ou au commerce ou à l'administration, mais dont la valeur fondamentale, et d'ailleurs le mot apparaît dans l'extrait, c'est ce qu'on possède. L'accès à la propriété est en quelque sorte le moteur fondamental de cette classe. Et si l'on se souvient d'une des grandes mesures que Margaret Thatcher a prises, ça a été de rendre possible l'accès à la propriété de la demeure où l'on habitait, chose qui à Londres n'était pas du tout la règle. Tout le monde était locataire jusqu'à Margaret Thatcher, comme c'était le cas à Paris jusque dans les années 50, mais ça avait duré beaucoup plus longtemps à Londres. C'est ce point, c'est cette couche sociale-là qui est arrivée au pouvoir, très visiblement, y compris dans ses valeurs et dans ses représentations, avec une sorte de refus de tout ce qui pouvait être en excès à ses yeux, de la propriété.
Et c'est d'ailleurs le personnage de Margaret Thatcher qui a inspiré, selon vous, Jean-Claude Milner, le personnage de la tante Marge, la sœur de l'oncle Vernon. Quels sont les points communs entre les deux femmes ?
Bon, il y a d'abord, c'est une intuition que j'avais eue en voyant le film, le sentiment que j'avais que l'actrice choisie avait été coiffée, habillée d'une manière qui rappelait très directement Margaret Thatcher.
C'est effectivement assez frappant.
C'est tout à fait frappant. Et cette intuition a été confirmée plusieurs années après par J.K. Rowling elle-même, qui a dit oui, effectivement, la tante Marge est une reprise, une caricature de Margaret Thatcher. Mon autre sentiment, c'est que ce qui est décrit dans ce qui apparaît dans le film comme le gonflement de Margaret Thatcher, ou disons de la tante Marge.
Qui dit des horreurs à Harry Potter, voilà. Qui effectivement, en réponse, lui jette un sort qui l'a fait gonfler.
Il devient une espèce de ballon flottant. J'ai vu comme une allusion à la scène du dictateur où le personnage qui représente Hitler dans le dictateur joue avec un globe terrestre qui est en réalité un ballon. Et il m'a semblé qu'il y avait une sorte d'allusion au fait que Margaret Thatcher était comparée à l'époque à Hitler. Il y avait même des portraits d'elle avec la moustache.
À l'inverse, le monde de la magie peut être interprété comme un monde anticapitaliste ?
Oui, ou pré-capitaliste. C'est toute la question, en vérité. Lorsque Harry Potter découvre le monde de la magie, il a le sentiment de découvrir un monde parfait, qu'il ne comprend pas complètement, mais il a le sentiment de découvrir un monde dont il comprendra peu à peu les perfections. Et ce qui va lui apparaître, c'est peu à peu les imperfections. Et cela vient très vite, dès le deuxième film, puisque là je m'appuie sur les films parce que c'est plus facile, avec la découverte qu'il existe des esclaves, c'est-à-dire les serfs, les elfes, représentés par Dobby.
À ce propos, je voudrais justement vous faire entendre un texte, car les elfes de maison sont traités comme des esclaves et il n'y a finalement qu'Hermione Granger que cela dérange.
Hermione prit une tarte à la confiture. « C'est à la cuisine que tu es allé chercher tout ça » demanda-t-elle. « Ouais, » répondit Fred avec un grand sourire. D'une petite voix aiguë, il se mit alors à imiter un elfe de maison.
« Dites-nous ce qui vous ferait plaisir, monsieur, nous irons vous chercher ce que vous voudrez. »
Ils se mettent en quatre. Ils seraient capables de me faire rôtir un bœuf entier si je leur disais que j'ai vraiment faim.
« Comment on fait pour aller là-bas » demanda Hermione d'un air dégagé.
Oh, c'est facile, il y a une porte cachée derrière un tableau qui représente une coupe de fruits. Il suffit de chatouiller la poire, elle se met à rigoler et... Fred s'interrompit, l'air soupçonneux.
Pourquoi tu veux savoir ça ?
Oh, pour rien, répondit précipitamment Hermione.
Tu as l'intention d'encourager les elfes de maison à faire grève ? Demanda Georges. Tu vas leur distribuer des tracts et les inciter à la rébellion ?
Il y eut quelques rires étouffés, mais Hermione resta silencieuse.
Ne va pas leur mettre des idées en tête en leur disant qu'il leur faut des vêtements et des salaires, l'avertit Fred. Tu les empêcherais de travailler.
Et le terme travailler est important ici, puisqu'il semble que la société des sorciers soit une société sans travail productif ou presque, et donc finalement ce sont seulement les elfes qui travaillent, Jean-Claude Milner.
Oui, et ça m'a rappelé la description que Marx fait dans un écrit de jeunesse où il décrit la société antique. C'était d'Athènes, il dit, mais à Athènes, tout le travail est fait par les esclaves et cela laisse du temps aux maîtres pour se promener, pour faire de la philosophie, pour faire de la politique. Et c'est un peu la situation qui apparaît dans le monde des sorciers, où les sorciers ont tout le temps de faire quoi ? Les uns font uniquement de la magie. Les autres administrent le monde de la magie.
On a l'impression que la plupart administrent le monde de la magie et que finalement c'est une société où l'État est très présent, où il y a une bureaucratie très présente.
Je dirais pas que la plupart, parce que je pense par exemple à la famille Malfoy, on a l'impression que la famille Malfoy littéralement ne fait rien de ses 10 doigts sauf de la magie. Une sorte d'aristocratie de loisirs. Par opposition, effectivement, il y a toute cette machinerie de fonctionnaires et qui va grandir peu à peu au fil de l'histoire et des films jusqu'à devenir une machine de caractère totalitaire.
Vous dites pré-capitaliste, Jean-Claude Milner, et ce sera ma dernière question. Effectivement, ce que l'on remarque et ce que vous soulevez, c'est que, par exemple, le chemin de traverse où Harry Potter va aller faire ses courses en vue d'arriver à Poudlard évoque davantage l'économie du 19e siècle que les années 90.
Oui, très certainement, et même plus encore. Lorsque c'est évoqué dans l'extrait, lorsque Harry Potter découvre les ressources que lui ont laissées ses parents, c'est en fait un trésor. C'est-à-dire, ce sont des objets précieux par eux-mêmes, donc quelque chose qui ressemble beaucoup plus à ce qui existait dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge qu'à l'époque capitaliste, où la fortune, ça peut être des bouts de papier. Là, nous sommes dans une période antérieure, je dirais même antérieure au billet de banque. Il est tout à fait intéressant que la monnaie, ce qui sert de monnaie, ce soit des pièces, et la notion de billet n'existe pas.
Merci beaucoup, Jean-Claude Milner, de nous avoir fait découvrir l'économie du monde de la magie. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Harry Potter à l'école des sciences morales et politiques, paru aux presses universitaires de France. C'est la fin d'Entendez-vous l'écho. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute. On se retrouve lundi pour une table ronde d'actualité entre plan de relance et plans sociaux. Comment empêcher une explosion du chômage? C'est la question que l'on posera à nos trois invités, Xavier Rago, Christine Hérel et François Langot. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho. Excellent week-end à l'écoute de France Culture et à lundi.